Alors, petit e, le fait de susciter ou de déparler, qui est une expression juive qui veut dire dire du mal. Alors là, je vous renvoie au livre des Nombres, chapitre 11, le livre des Nombres où on trouve cette traversée du désert. C'est en fait un focus, principalement, sur la traversée du désert, où, avec tous les déboires que ça comporte, hein, tous les combats, etc. Et au chapitre 11 des Nombres, fin du chapitre 11, début du chapitre 12. Il est dit que quand Myriam et de même Aaron critiqua Moïse à cause de la femme nubienne qu'il avait épousée, car il avait épousé une nubienne, une dame qui était complètement noire, un noir très très foncé, c'était vraiment la Nubie, c'est l'Éthiopie d'aujourd'hui, vous voyez, c'est des gens qui sont considérés comme un peuple relativement différent du peuple juif à l'époque. C'était comme ça que c'était perçu. Ils dirent, est-ce donc à Moïse seul que le Seigneur a parlé? Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Donc là, on voit une jalousie probablement, hein, parce que il est dit, est-ce à Moïse seul que le Seigneur a parlé? Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Donc déjà, on voit qu'elle-même recevait sûrement beaucoup de choses, et que son combat à elle, c'était de faire peu mention de ce que le Seigneur lui disait, alors que Moïse, le Seigneur lui parlait face à face, et puis il y avait Aaron qui disait haut et fort, voilà ce que le Seigneur a dit, vous voyez. Myriam, c'était pas Myriam, maintenant à toi la parole, quoi. Il semble que ce soit la jalousie, parce que elle est critique le fait que Moïse ait épousé une femme nubienne. Franchement, on s'en fout, enfin je dis pas on s'en fout, mais ça paraît bizarre de faire une attaque en règle là-dessus, alors que donc on imagine que c'est plutôt en réalité qu'elle va trouver une excuse à sa jalousie, qui est le Seigneur ne nous parle-t-il pas à nous aussi, enfin la jalousie de ne pas pouvoir parler publiquement, et qui va s'exprimer dans c'est la femme de Moïse qui va prendre la critique, quoi. Voilà. Alors le Seigneur coupe court. Il va convoquer à la tente de la rencontre Moïse, Aaron et puis Myriam, et rétablir la vérité en disant, est-ce que je ne parle pas face à face à Moïse, etc. Et ça va être une réprimande sévère pour Myriam. Et c'est Myriam qui va prendre pour Aaron et elle, quoi. C'est elle qui va être lépreuse et non pas Aaron. Et donc, on retrouve l'idée, et qui je pense est suggérée là, quand il est dit, quand Myriam et de même Aaron critiquent à Moïse. On a l'impression qu'elle a d'abord été à dire « Oh là là, regarde la femme nubienne », et puis ensuite Aaron, qui était là, qui avait pas forcément pensé, qui a dit « Ah oui, t'as raison, oui, c'est vrai, quelle idée de prendre une femme nubienne, etc. » Et donc, c'est elle qui va susciter, par une parole, elle a déparlé, c'est une expression que la tradition juive emploie, pour dire « elle a déconstruit », parce qu'une parole est toujours créatrice, et donc quand on déparle, ça veut dire qu'on... on détruit quelque chose. Voilà, on a une parole qui est efficace dans le mauvais sens, en fait. Et alors, il y a Aaron qui supplie Moïse, et ensuite Moïse qui supplie Dieu. Alors, c'est intéressant, on avait parlé de Aaron qui symbolisait la miséricorde, et de Moïse qui symbolisait la justice, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc Moïse, on peut dire ça comme ça, alors ça c'est mon interprétation, hein, que Moïse va représenter plutôt la masculinité, et Aaron va représenter plutôt la féminité, la miséricorde. Et donc c'est un peu comme si Aaron qui supplie Moïse, c'est un peu comme la femme qui excelle dans l'art de suggérer et de convaincre une autre personne, voilà, notamment un homme. Et Moïse qui supplie Dieu, qui va avoir ce rôle d'être intercesseur, l'intercesseur attitré, officiel, pour supplier le Seigneur, voilà. Et ce qui peut consoler les femmes qui sont présentes ici, en tout cas, c'est que, mais là je donne mon avis aussi, c'est que je pense que ce que souligne le texte ici, c'est que l'homme, il va surtout être capable de supplier Dieu, et la femme, elle va être capable à la fois de supplier quelqu'un d'autre, de suggérer à quelqu'un d'autre, et de le faire avec Dieu, comme Rachel, qui ne veut pas être consolée, quoi. Voilà, dans le livre des Proverbes, alors, c'est pour compléter un petit peu ce que je disais, hein. Proverbe 25-15, « Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser les os. » Le fait de ronger son frein, de dire « Seigneur, je te confie ma colère ou mon humeur du moment », et c'est la suggestion et le fait de laisser l'Esprit du Seigneur agir à travers un langage qui soit aimant, qui est capable de briser des os, c'est-à-dire de renverser les puissants de leur trône, quoi. Siracide 25-15, donc le livre du Siracide ou de l'Ecclésiastique n'est pas toujours tendre avec les femmes, il y a un certain nombre de versets qu'il faut savoir interpréter. Il n'est pire venin que venin de serpent, ni colère pire qu'une colère de femme. Voilà. Et ce qui est très vrai, l'homme il va se mettre en colère, il va tout péter sur le coup. La femme, comme c'est pas forcément par la force qu'elle va exercer sa colère, la tentation pour une femme, ça peut être de se dire la vengeance est un plat qui se mange froid et de nourrir une animosité et d'exercer sa vengeance. Et donc effectivement, c'est un venin. Les versets les plus révoltants dans la Bible, il faut y voir aussi des versets dont la pointe est la plus spirituelle. Voilà. Une autre manière de dire ça, c'est de dire il n'y a pas pire arme spirituelle que la colère d'une femme bien maîtrisée. En fait, c'est comme ça qu'on pourrait traduire. C'est-à-dire, mesdames, mais quelque chose vous met en colère, et ben, en l'offrant au Seigneur de la bonne manière, vous allez avoir une capacité particulière à changer les choses. Et on imagine que Myriam, qui était appelée aussi la révoltée, c'était quelqu'un qui était en rébellion contre les mauvaises lois, et elle a mis des années, mais par son action, elle a vu le peuple d'Hébreu sortir d'Égypte. Et c'est pas par sa main apparemment, mais en réalité, elle a tenu la famille, et c'est Moïse avec Aaron, etc., qui ont fait sortir tout ce petit monde. Dans un commentaire juif, on dit « Bien que Myriam, la prophétesse, eût mérité d'être punie de la lèpre, il y a dans son cas pour les sages et ceux qui gardent la loi un riche enseignement, à savoir qu'un homme qui accomplit un précepte mineur reçoit pour lui une grande récompense. C'est parce que Myriam était restée debout sur la rive du fleuve pour savoir ce que serait le sort de Moïse, qu'Israël, les nuées et le puits ne bougèrent point et ne partirent point de leur place avant que Myriam, la prophétesse, ne fût guérie de sa lèpre. » Mais c'est seulement après que Myriam, la prophétesse, eut été guérie de sa lèpre, après cela seulement, que le peuple partit de Hazeroth et ils campèrent dans le désert de Paran. C'est-à-dire que tout le peuple l'a attendu. Ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est dit là, pour le coup, dans la Bible. Il y a une pause. Aaron obtient un gain de cause auprès de Moïse. Moïse obtient un gain de cause auprès du Seigneur, qui guérit Myriam. Et il lui impose un temps de purification, c'est-à-dire quelque chose pour faire réparation. Le peuple attend que Myriam... Et seulement ensuite, le peuple repart. Donc on voit à quel point c'était quelqu'un qui était central, quoi. Là, c'est pas Moïse hein, qui s'est vautré, c'est Myriam. Et tout le peuple, finalement, symboliquement, c'est toute l'Église qui se retrouve stoppée net, parce que la femme qui est la colonne de l'Église, dans ce cas-là, enfin, ou du peuple de Dieu, on va dire, pour ne pas être trop anachronique, est tombée et a besoin d'un temps pour refaire ses forces. Voilà. On trouve aussi « Soyez attentifs à n'avoir point de suspicion les uns contre les autres, pour n'être point punis. Souvenez-vous que Yahvé, votre Dieu, a fait à Myriam qui conçut des soupçons contre Moïse au sujet d'une chose dont il n'était pas coupable, et qui fut puni de la lèpre et retenu un chemin lors de votre sortie d'Égypte. » La suspicion, c'est une plante d'amertume. Ça fait partie des choses, peut-être des pièges particuliers, surtout pour une femme qui a un pouvoir de suggestion particulier, de ne pas tomber dans le piège d'une amertume. Voilà. Bon, ça s'applique pour les hommes aussi, bien évidemment. Petit F, les femmes sources d'eau vive pour la communauté. Donc je reviens à l'Exode, chapitre 20, on raconte la mort de Myriam, et on dit que dès lors, le puits qu'elle avait obtenu par ses mérites fut caché. Donc autrement dit, ils ont passé 40 ans à errer dans le désert, et ils avaient à boire, parce qu'il y avait le puits de Myriam. C'est la tradition juive qui dit ça. C'est quand même fort. C'est-à-dire que celle grâce à qui il y a eu de la flotte pendant 40 ans, c'était elle. Alors on parle de Massa et Meriba avec Moïse qui frappe le rocher, mais ça n'arrive qu'après. C'est quand elle meurt qu'il est dit le puits est caché. Ça veut dire que la grâce qui était ouverte, parce qu'elle avait l'œil prophétique ouvert pour recevoir à pleine puissance ce que le Seigneur lui disait et qu'ensuite elle transmettait aux autres, eh bien ça a été voilé à sa mort, parce qu'il semble-t-il il n'y a eu personne qui lui a demandé, comme Élisée, donne-moi une double part de ton esprit, qui s'est laissé enseigner et qui a dit je veux me mettre à ton école pour continuer la mission que tu as exercée. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est perdu, ou à défaut d'être perdu, qui a été voilé pendant un certain temps. Parce qu'on peut penser à d'autres femmes qui ont récupéré ces grâces-là et qui ont abreuvé toute la communauté, bien sûr, comme la Vierge Marie en tout premier lieu. Mais en tout cas, c'est suite à ça que le peuple hébreu qui n'a plus d'eau se met à récriminer. Et c'est là que Dieu dit par miséricorde, je vous donne une source d'eau vive par l'intermédiaire de Moïse. Mais on voit que la première source d'eau vive n'est pas celle que Dieu donne par l'intermédiaire les responsables officiels de la communauté. C'est pas ça la première source d'eau, c'est d'abord celle qui donne par l'intermédiaire de cette femme qui est prophète, en fait. C'est ça l'enseignement que je trouve assez renversant, notamment pour tous ceux qui critiquent la Bible en disant les femmes, en gros, elles passent après, quoi. Enfin, la tradition juive dit exactement l'inverse. Une force invisible qui abreuve la communauté, la femme tisse du lien humain, et notamment parce qu'elle a... elle est plus présente dans le lieu qu'est le campement, on va dire. Donc elle voit passer les choses, elle a plus d'autorité dans sa maison, on va dire ça comme ça. Et donc elle a une capacité plus grande à désaltérer les autres au quotidien et à fortifier, à être une colonne comme l'était Myriam. Voilà.